J'ai l'impression qu'à avoir le nez sur les histoires de piratage qui se succèdent et qui se sont succédées ces derniers temps, on oublie de faire une distinction entre d'un côté ce logiciel de rançonnage dont on a beaucoup parlé ce week-end et ce matin, et ce que nous avons vécu auparavant et qu'on a appelé les Macron Leaks, donc le piratage et la mise en ligne d'un nombre considérable de messages et de documents échangés par une partie de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, mais avant encore avec les piratages des serveurs du Parti démocrate aux États-Unis par exemple. Alors si ce logiciel de rançonnage et ses fuites de données posent les mêmes questions globales de sécurité informatique, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Le logiciel de rançonnage s'inscrit dans une longue histoire de la délinquance qui se réinvente à l'heure numérique, alors que la fuite des données de l'équipe de campagne Emmanuel Macron du Parti démocrate nous fait entrer, à mon sens, dans une nouvelle ère. C'est donc à elle que je vais m'intéresser. Parce que dans l'histoire de l'information, il me semble qu'il s'agit d'une étape supplémentaire par rapport à la période précédente qui avait vu la naissance de Wikileaks et qui est allée jusqu'à Edward Snowden, époque où des lanceurs d'alerte faisaient fuir des données gigantesques, des masses de données gigantesques dans un but militant. D'ailleurs, certains ont été punis pour cela. Ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait différent, car ces piratages ne sont plus le fait d'individus, mais de groupes organisés, manifestement pilotés par des États. Alors, c'est la Russie vraisemblablement aujourd'hui, mais beaucoup d'autres États en sont capables, et sont surtout capables de faire croire qu'il s'agit de la Russie. Se pose alors une question, à mon sens, centrale. Comment qualifier ces actions et leurs conséquences ? Le terme de piratage est insuffisant, parce qu'il ne qualifie que l'acte technique, et encore très vaguement. Le terme de cyberguerre me semble un peu trompeur parce qu'une guerre suppose des camps, des ennemis identifiés. Or, on voit bien que dans ces histoires, la provenance de l'attaque est non seulement très compliquée à établir, mais semble même, du même coup, passer au second plan. L'autre terme employé, c'est celui d'opération de déstabilisation. Bon, il a l'avantage d'insister sur les effets, la déstabilisation, mais est-ce que c'est vraiment le mot qui convient ? Je ne suis pas certain qu'on assiste à une déstabilisation, et puis ça signifierait qu'il y a un but précis à cet acte. Or, je crois que c'est précisément cela l'extraordinaire nouveauté de ce à quoi on assiste. On assiste à des actes qui n'ont pas de but précis. On lâche une bombe sur Hiroshima ou Nagasaki pour faire plier le Japon. On mène une guerre de propagande dans un pays pour faire tomber son dirigeant. On finance le syndicat dans un pays ennemi pour perturber l'équilibre social. Mais pourquoi pirate-t-on des données et les relâche-t-on dans la nature ? Quel but cela sert-il ? Peut-on savoir à l'avance ce que ça va donner ? Et le fait même que ces données ne soient pas triées avant d'être mises en ligne laisse supposer que ceux qui font ça ne savent même pas vraiment ce qu'ils relâchent. En fait, le seul effet que je vois, c'est la création du soupçon. Ces actes créent un soupçon. Le soupçon qu'il y a du secret derrière le réel. Mais peu importe qu'on déniche vraiment de l'illégal ou du secret dans toutes ces données, c'est le soupçon. C'est le soupçon que derrière le réel, il y a toujours du sale et du pourri. Alors le réel, ça peut être le fonctionnement d'une entreprise quand ce sont des mails des salariés de Sony qui ont fuité et ont été mis en ligne. Ça peut être le réel du fonctionnement d'un parti quand on a piraté les serveurs du Parti démocrate américain. Ou ça peut être le réel d'une campagne politique dans le cas des Macron Leaks. Et comme il y a toujours des choses pas très belles dans ce qui soutient le réel, ça produit un effet, même en l'absence d'illégalité ou de scandale, c'est l'effet qu'on a raison d'être suspicieux. C'est pour ça que les canaux de diffusion de ces documents piratés sont les mêmes que les canaux qui diffusent les fake news ou les fausses informations. On l'a vu avec les Macron Leaks, qu'elles avaient été relayées par les mêmes canaux que les propagandes trumpistes, par l'extrême droite ou les complotistes de tout poil. C'est parce que la logique est exactement la même, tout ça va ensemble, c'est la même vision du monde qui est donnée, c'est la vision d'un monde sale. Alors quel intérêt y a-t-il à encourager ce soupçon ? Eh bien l'intérêt de tous ceux qui ont envie ou intérêt à montrer que notre social-démocratie libérale qui se veut assez vertueuse, assez transparente, animée de bonnes intentions, est sans cesse et partout soupçonnable de ne pas l'être. C'est pourquoi la réponse à ces actions n'est pas simplement technique, ça, il faut se protéger, bien sûr, parce que c'est impossible, mais c'est impossible de le faire complètement. Cette réponse est une invitation à ce que le pouvoir, quel qu'il soit, parce qu'il est toujours susceptible aujourd'hui d'être dévoilé, ne revendique pas de fausses vertus. Et ça, je ne suis pas certain qu'on soit encore pleinement conscient de ce que cela implique.